Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons le professeur Carlos Lopez. Bonjour Carlos Lopez.
Bonjour.
Carlos Lopez, vous enseignez l'économie en ce moment à Paris, à Sciences Po, mais aussi au Cap, en Afrique du Sud. Vous avez été pendant 4 ans, jusqu'à votre démission en 2016, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Dans votre biographie officielle, rédigée à l'époque de ses responsabilités, on apprend que vous êtes né à Kanchungo, une bourgade de Guinée-Bissau, et qu'après avoir obtenu votre baccalauréat, vous avez dû vous expatrier pour entreprendre des études supérieures. Il n'y avait en effet pas d'université en Guinée-Bissau à l'époque. Aujourd'hui, il y en a. Alors pourquoi n'y enseignez-vous pas ? Pourquoi plutôt le Cap et Paris plutôt que la Guinée-Bissau ?
C'est une bonne question, mais je pense que si on suit un peu les événements en Guinée-Bissau, on se rend compte que on est dans une situation vraiment de grande tension politique depuis des années. La crise est assez conséquente dans mon pays.
Mais il y a quand même des étudiants qui demandent des professeurs.
Oui, mais pas nécessairement une bonne université pour commencer. Donc, si j'allais enseigner en Guinée-Bissau, probablement je serais obligé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont à l'extérieur du pays, de m'engager beaucoup plus profondément dans les réformes qui sont nécessaires dans le pays lui-même, dont des réformes dans l'enseignement supérieur qui est...
C'est un peu paradoxal de prôner des réformes un peu partout en Afrique et puis de ne pas vouloir les faire dans votre pays natal.
En effet, mon travail principal depuis que j'ai quitté la Commission économique pour l'Afrique, c'est de donner des conseils au niveau économique auprès des leaders africains. Et pour cela, j'ai besoin d'une base, de recherche, une base de stimulation intellectuelle qui n'existe pas en Guinée-Bissau. Donc j'aide la Guinée-Bissau d'ailleurs en termes de avis sur les questions difficiles concernant l'économie,
donc la macroéconomie. Vous conseillez le président Vasse ?
Non, pas le président Vasse, parce que j'ai pas ce genre d'intimité. Mais je faisais, par exemple, avec l'ancien Premier ministre Domingos Simões Pereira, quand il a préparé la table ronde avec les bailleurs de fonds. Et donc, c'est le genre d'activité que je peux apporter de l'extérieur.
Julien Clémenceau.
Donc, vous enseignez au Cap, vous êtes rattaché à l'Université du Cap. Actuellement, vous êtes à Sciences Po. Qu'est-ce qu'il y a de si plaisant dans l'activité, dans l'enseignement ?
Moi, je pense que c'est une bonne base de commencer à préparer un peu la jeunesse qui va certainement jouer un rôle majeur dans les transformations en Afrique. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas nécessairement dans les pays africains où la plupart des jeunes qui sont appelés à avoir un rôle majeur étudient. Très souvent, ils étudient à l'extérieur et dans des grandes écoles internationales, dont Sciences Po. Donc, je les retrouve à Sciences Po, je les retrouve à Oxford où j'étais l'année dernière, et je pense que c'est bon d'avoir cette possibilité d'avoir une base africaine, mais aussi d'enseigner l'Afrique à l'extérieur.
Sciences Po, vous nous disiez, Carlos Pérez, que vous enseignez en anglais. Alors, au cours de cette émission, nous allons évoquer tous les grands dossiers de l'économie africaine, la situation économique de l'Afrique du Sud où vous enseignez, l'affrontement entre les compagnies minières et le gouvernement de RDC, ou le franc CFA, entre autres. Carlos Lopez, il y a un peu plus de 2 semaines, 44 États membres de l'Union africaine ont signé un accord permettant la création d'une zone de libre-échange continentale. En abrégé, ça donne un sigle horrible, la ZLEC. Vous avez salué une décision historique. Pourquoi historique ?
Vous savez, l'idéologie du panafricanisme est une idéologie éminemment politique. Donc elle a permis les indépendances africaines, elle a motivé les Africains pour confronter l'apartheid et finalement la création de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était éminemment un geste d'intégration politique. Mais depuis déjà 2 décennies, on a tourné cette page. Et donc, il fallait passer à l'intégration économique. Et cette intégration économique commence par libre-échange. Un libre-échange qui a toute une importance particulière à ce moment, parce que nous sommes en train de vivre des modifications du tissu économique mondial qui sont considérables. Par exemple, le fait que les chaînes de valeur ont perdu les caractéristiques qu'elles avaient de l'époque industrielle, où maintenant, par exemple, la propriété intellectuelle joue un rôle beaucoup plus grand, où les technologies les plus avancées sont appelées à diminuer la valeur travail. Et donc, les pays retardataires en termes d'industrialisation, comme c'est la plupart des cas dans les pays africains, vont affronter une difficulté énorme dans le marché mondial. Elles ont déjà, parce que elles sont surtout des exportateurs, sont surtout des pays exportateurs de matières premières, mais si elles veulent vraiment évoluer dans les chaînes de valeur, la tâche sera rude. Alors, une zone de libre-échange africaine, c'est surtout pour protéger déjà la création de chaînes de valeur régionales.
C'est-à-dire les chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'un produit se promène, entre guillemets, d'un pays à l'autre, fasse des allers-retours pour s'enrichir en valeur à chaque fois.
Voilà. Et par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire, les demandes seront gigantesques à cause de la pression démographique dans le continent. Et donc, les possibilités d'industrialiser à partir de la transformation des produits alimentaire est énorme, et c'est justement la voie que beaucoup de pays ont emprunté dans le passé, notamment en Asie.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui va faire que l'industrialisation va pouvoir être plus rapide, plus facile, et comment la zone de libre-échange va permettre de mettre en place des barrières pour favoriser la croissance des entreprises africaines ?
4 raisons pour cela. D'abord, parce que nous allons pouvoir négocier en tant qu'une entité avec une dimension économique importante et avec une dimension de commerce importante, notamment en termes, disons, de l'économie mondiale équivalent à l'Inde. Et donc ça, vraiment met les Africains dans une situation très différente de ce que nous vérifions actuellement, avec 54 unités qui essaient un peu de se faire écouter, mais c'était très difficile. Deuxième raison, c'est le fait que nous pouvons avoir, avec l'élimination des barrières tarifaires à l'intérieur du continent, des possibilités d'installer n'importe quelle unité industrielle dans un pays, et donc avoir tout de suite l'intention d'atteindre un marché beaucoup plus grand. Bien sûr, des pays comme le Nigeria n'ont pas besoin de cela, parce qu'ils sont déjà un grand marché, mais pour les petits pays, c'est une capacité, par exemple, de pouvoir se positionner auprès d'un grand marché et d'exporter vers ce marché. Par exemple, si on me dit, est-ce qu'il y a des possibilités d'industrialisation au Niger, je dirais que c'est très difficile. Mais le Niger exportant pour le Nigeria, c'est déjà une autre affaire. La troisième raison, c'est que nous avons vraiment très peu de connaissances sur l'émergence de toutes les caractéristiques liées aux nouvelles technologies, notamment le fait que la propriété intellectuelle est devenue la partie la plus importante de la valeur.
Et la quatrième raison ?
Et la quatrième raison, c'est le fait que nous avons vraiment beaucoup d'infrastructures à mettre en place, et très souvent ces infrastructures ne font pas de sens du point de vue de l'investissement si elles ne sont pas transfrontalières.
Alors, Carlos Lopez, on parle d'une zone de libre-échange continental, mais là, vous êtes en train de nous parler d'une zone économique unique. On a l'impression qu'il n'y a plus de frontières et qu'il n'y a plus 54 gouvernements, mais un seul qui peut négocier. Ce n'est pas une vue un peu utopique de la situation économique de l'Afrique que vous nous présentez là ?
Non. Je parle surtout de la partie qui permettra, à travers le libre-échange, d'établir des intégrations beaucoup plus avancées du point de vue économique. Ça existe par ailleurs déjà dans certaines régions africaines, par exemple au sein de la CDAO, la communauté de l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà la libre circulation, il y a déjà le libre échange d'une certaine façon. Au sein de la zone douanière d'Afrique australe, il y a aussi ces possibilités. Donc on est en train d'élargir quelque chose qui a déjà commencé, mais on est très loin, par exemple, d'une politique fiscale commune, d'une politique monétaire commune, disons même d'une harmonisation du tissu industriel, etc., qui est aussi nécessaire pour une intégration économique.
D'autant qu'il y a des grands États qui n'ont pas signé, le Nigeria en fait partie. Quelle est la raison qui a poussé le président Bouhari à ne pas vouloir abonder dans le même sens que ses homologues ?
Vous savez, c'est un peu lié à la politique interne du Nigeria. Déjà, quand il y a eu des négociations d'une autre nature, le président Buhari a eu des hésitations de dernière minute, donc c'est pas la première fois.
Mais vous pensez à quelles négociations ?
Par exemple, quand on a commencé à négocier la contribution pour la réforme de l'Union africaine sur la taxe sur les importations, la même chose avec les accords de partenariat économique avec l'Europe. Donc, il y a une manifestation d'hésitation de la part du Nigeria pour boucler des dossiers complexes, parce qu'il y a beaucoup de pression des différents intervenants politiques au Nigeria. Mais je ne pense pas que le Nigeria va s'éloigner de cette zone économique de libre-échange pour longtemps. D'ailleurs, ils ont déjà fait savoir que c'était une question de consultation interne et qu'ils allaient joindre la table probablement plus tard.
Carlos Lopez, vous regrettez, vous l'avez fait au cours de cette émission déjà, régulièrement que les pays africains dépendent beaucoup de leurs matières premières. C'est un constat. Vous regrettez aussi qu'ils se fassent imposer le prix de ces matières premières. Deux pays majeurs sur le marché du cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont récemment passé un accord pour essayer de former une alliance de producteurs. Alors, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les deux premiers producteurs de cacao au monde. Est-ce que c'est un premier pas pour vous, à vos yeux, dans la constitution d'une Afrique qui dicterait au marché les prix ? Est-ce que c'est réaliste, ça ? Est-ce que le marché peut être dompté comme ça par des décisions politiques ?
Non, je pense que pour que les Africains puissent avoir une voix beaucoup plus forte dans la détermination des prix des matières premières, il faut beaucoup plus de sophistication que seulement dire « bon voilà, on va augmenter les taxes, on va augmenter ce qu'on demande aux compagnies d'exploitation minière ou autres ». Je pense que d'abord, il faut faire le diagnostic correct sur l'état de l'économie des pays. Nous avons seulement 12 pays en Afrique qui sont à jour avec leurs comptes nationaux. Ça veut dire que les pays ne connaissent pas très bien la structure de leur économie.
Quand vous dites à jour, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire que du point de vue de la méthodologie des statistiques internationales, nous devons par exemple avoir l'année de base dans une distance qui ne sera pas au-delà de 5 ans. Et donc beaucoup de pays sont vraiment très en retard pour mettre à jour cette année de base et aussi pour compléter les comptes nationaux. Quelquefois, les comptes nationaux sont présentés avec 3-4 ans de retard et avec des difficultés méthodologiques majeures. Les pays africains ne connaissent pas leur territoire, donc les régimes fonciers sont dans un état catastrophique. Il y a 60% des Africains qui n'ont pas de carte d'identité ou de registre civil vraiment entier. Donc ça veut dire que si on ne connaît pas sa population, on ne connaît pas son territoire et on connaît très mal son économie et sa structure, on a un très mauvais diagnostic. Les conséquences macroéconomiques sont majeures. Par exemple, si on fait le calcul de la dette, normalement on le fait dans la base du ratio du PIB. Si le PIB est sous-estimé, donc
c'est le produit intérieur brut.
Voilà, nous avons immédiatement un problème de qualité de l'analyse sur la dette. Mais il y a un autre problème majeur qui est la question des taxes. Si on a une pression fiscale en Afrique qui tourne autour de 22% quand la moyenne internationale est de 35%, dans la base du PIB qu'on connaît, imaginons quelle est la situation si on connaissait le vrai PIB. Donc, avec ce type de diagnostic, c'est normal que les pays se rattachent aux sources de revenus qui sont les plus faciles. Et normalement, ce sont les exportations de matières premières. Donc, si on ne s'attaque pas à ces questions de fond, on s'occupe seulement des matières premières comme exportation, on n'est pas en train de toucher l'essentiel du problème.
Alors, un autre pays qui a affaire avec les matières premières, ô combien, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Et il y a un bras de fer en ce moment entre les compagnies minières qui opèrent et le gouvernement de Kinshasa. Ce qui est en jeu, c'est le niveau des taxes que ces compagnies payent. De quel côté êtes-vous ? Est-ce que vous êtes du côté du gouvernement qui veut des taxes plus élevées ou du côté des compagnies minières qui veulent que ça soit fluctuant en fonction du cours mondial de ces métaux qu'ils extraient du sous-sol congolais ?
Bon, moi je dirais d'abord, si je voulais être cynique, Je dirais qu'on n'est pas en train d'assister à un bras de fer autour du cobalt, on est en train d'assister à un bras de fer sur les richesses du Congo. Et ce n'est pas un hasard si on a, une mission de paix au Congo depuis 1960. Donc ça fait 58 ans qu'on a une mission de paix au Congo. Donc c'est ça le bras de fer. Le cobalt, c'est le dernier chapitre de cette discussion. Mais on peut être tenté par une analyse un peu moraliste, de dire, bon voilà, c'est de l'exploitation, les prix ne sont pas bons, et donc on doit être vraiment du côté du gouvernement pour qu'on puisse augmenter les taxes. Mais ça ne va pas régler le problème, d'abord parce qu'il y a un niveau de corruption extrêmement élevé. Donc ces taxes, très souvent, vont prolonger encore un peu plus le comportement qui est un comportement du point de vue macroéconomique que je condamne. La condamnation n'est pas seulement à cause du fait que, disons, il y a une mauvaise utilisation des ressources publiques, c'est aussi la façon dont on exploite, par exemple, un métal, dans ce cas de figure, le cobalt, qui a une importance gigantesque pour l'économie mondiale et qui ne profite pas les Congolais.
Donc vous êtes du côté des compagnies minières?
Non, pas du tout. Au contraire, moi je pense que le cobalt qui sert au coltan et qui est en principe le métal le plus stratégique à ce moment, parce qu'on ne peut pas avoir une quelconque utilisation des appareils électroniques mobiles sans le coltan, devait être vraiment considéré comme une ressource d'une importance majeure. D'ailleurs, le film Black Panther est un peu basé sur cette idée d'un métal spécial. Ce métal spécial existe déjà, c'est le coltan. Et donc, un pays qui produit autant de coltan, donc la RDC a le cartel à lui seul, donc n'a pas besoin d'autres, devait avoir une richesse à partir du coltan qui servirait à transformer complètement le pays. Mais est-ce que le gouvernement a une quelconque stratégie pour cela? Non. Donc les compagnies minières exploitent une faiblesse. Les compagnies minières sont bien sûr très capables de négocier dans la base des cours qu'elles imposent elles-mêmes, parce que s'il y a un cartel d'un seul pays, c'est au Congo de décider les prix du coltan et à personne d'autre.
Est-ce que vous avez l'impression que ce débat autour des ressources minières du Congo peut servir plus largement à l'Afrique, à d'autres pays, les inviter à revoir la manière dont ils gèrent ces matières premières stratégiques pour les industriels?
Vous savez, actuellement en Afrique, on a deux types de leadership. On a un leadership qui permet de se centrer beaucoup plus sur les résultats du développement. Et il y a un leadership qui continue un peu à vivre des matières premières et qui essaie de les exploiter de la façon la plus rétrograde possible. Alors, on peut presque diviser les pays dans ces deux catégories. Et ce qu'on constate, c'est que les pays qui ont une croissance soutenue, il y a d'autres qui ont des croissances, mais qui sont un peu des croissances yo-yo, hein. Et elles montent, elles descendent. Mais celles qui, des réalités qui ont une croissance soutenue, sont normalement des pays qui sont très pauvres en termes de matières premières.
Carlos Lopez, c'est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On parle donc de cette Afrique qui va plus ou moins bien. Trois des premières économies du continent, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ont connu une croissance inférieure à 2% en 2017. Un autre exemple de cette Afrique qui a des problèmes, c'est l'Angola. Outre une situation politique délicate, la situation économique y est critique. Écoutez ce qu'en disait récemment l'économiste Manuel José Alves da Rocha, professeur à l'Université catholique d'Angola, au micro de l'envoyé spécial de RFI, Sonia Rollet.
La présente situation en Angola n'est pas facile. L'État a besoin de beaucoup d'argent. La croissance économique, ce n'est pas suffisant. Le taux de croissance qui est dans le budget national, 4,9% de croissance pour cette année, ce n'est pas possible d'avoir ce taux de croissance. La production de pétrole doit baisser. Pendant cette année, la situation économique, financière, même sociale en Angola, c'est très, très grave. Nous allons avoir encore une autre année très difficile. Je n'ai pas de doute à ce propos. Depuis 2014, tous les Angolais, toutes les années, ont resté plus pauvres parce que la croissance économique n'a été pas suffisante pour couvrir le taux de croissance et progression. Le taux d'inflation que le gouvernement prévoit pour cette année dans le budget national, c'est de 28%. C'est très élevé pour les conditions de vie de la population, pour tout le monde. Parce que nous n'avons pas une politique de aussi ajuster les salaires au taux d'inflation.
C'était Emmanuel José Alves d'Arrocha, professeur à l'Université catholique d'Angola, au micro de Sonia Rollet dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Carlos Lopez est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Comment est-ce que vous voyez cette situation angolaise, Carlos Lopez?
Pour moi, le scandale majeur en Angola, c'est le fait que le pays dépend, du point de vue des ressources publiques, surtout des exportations de pétrole. À hauteur presque de 80%. C'est un scandale parce que c'est un pays qui a quand même une activité économique assez soutenue dans tous les domaines. Donc il y a même une diversification assez importante dans le domaine des services, avec une prolifération d'investissements dans le domaine bancaire, des télécoms, qui sont des domaines qui sont très porteurs en termes de développement et de croissance. Pourquoi nous trouvons dans un pays comme l'Angola avec 80% des recettes publiques venant d'un produit d'exportation? À cause justement d'une gouvernance qui est centrée sur les matières premières et la facilité. Il y a beaucoup d'Angolais qui sont très riches parce qu'ils payent pas d'impôts. Et donc moi, ce qui me gêne, c'est l'informalisation de la richesse, pas l'informalisation de la pauvreté. Donc très souvent, quand on parle du secteur informel, on pense aux pauvres, mais ce qui me gêne, c'est le secteur informel des riches qui ne paye pas d'impôts.
On revient sur un autre pays africain avec Julien Clemenceau de Jeune Afrique.
Près d'un quart de siècle après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud, justement, n'a pas encore réussi à bâtir un modèle, une économie inclusive. Est-ce que vous pensez que le nouveau président, Cyril Ramaphosa, sera mieux armé que son prédécesseur pour changer la donne?
Je pense qu'il va introduire une dimension éthique qui avait disparu depuis quelques années pendant la période Zuma. Mais je ne suis pas très optimiste pour un changement de fond de la structure de l'économie sud-africaine dans, disons, l'immédiat. Je pense que Cyril Ramaphosa n'a pas suffisamment d'assises au sein du parti, au sein du pays, pour pouvoir faire des réformes plus profondes qui sont nécessaires en Afrique du Sud. Sa structure économique continue à dépendre beaucoup d'un certain nombre d'acteurs qui sont très liés à l'industrie extractive, malgré le fait que le pays n'est plus là. Disons, l'industrie extractive contribue pour à peu près 1% de l'emploi formel et 6% du PIB. Donc ce n'est pas énorme, mais on n'en parle que de ça. La bourse de valeur est très centrée sur ces entreprises. Et nous savons que du point de vue, disons, émotionnel, c'est très lié aussi au fait de la terre. Et donc on voit que la question de la terre est devenue à nouveau assez polémique dans le pays.
Quel est le pays sur lequel vous êtes optimiste finalement en Afrique? Parce que là, vous dénoncez des scandales à répétition, vous nous dites non, l'Afrique du Sud ne va pas s'en sortir, l'Angola non plus, la RDC. Alors, où va la... Je dirais, en même temps, vous nous dites que cette zone de libre-échange continental est historique, mais où est-ce qu'il est l'optimisme?
Vous me posez des questions sur les grands pays. Les grands pays ne vont pas très bien. Les petits vont mieux. Et font mieux. Donc, quand on regarde, par exemple, la liste des pays qui ont la plus grande performance économique prévue pour 2018, il y en a 5 parmi les 10 avec la meilleure performance prévue par la Banque mondiale pour cette année. Il y en a 5 qui sont africains. Nous retrouvons, sans surprise, l'Éthiopie. Nous retrouvons la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Nous avons la Tanzanie aussi et le Rwanda. Donc ce sont des pays qui sont relativement riches en matière première, disons, qu'on considère soft, mais pas minerée nécessairement.
Mais ça veut dire que lorsque des gouvernements africains font la promesse d'une croissance plus inclusive, eh bien, les populations peuvent y croire. Dans un certain nombre de cas, on va effectivement réduire la pauvreté, réduire la fracture entre les riches et les pauvres.
Normalement, on m'accuse d'être optimiste. Donc, Jean-Pierre est en train de me provoquer en faisant croire que je suis un pessimiste par rapport à l'Afrique. Moi, je suis optimiste dans l'analyse de long terme. Parce que il y a des méga tendances qui sont favorables à l'Afrique, que ce soit la démographique. Je considère que c'est une tendance plutôt positive que négative, même s'il y a des polémiques autour de ça. Le fait que nous pouvons adapter les technologies à des systèmes de production qui sont en retard, ça permet vraiment de faire des sauts considérables. Le fait que l'Afrique a quand même une grande richesse en terres arables et en minerais qui permettrait une industrialisation à partir des matières premières, etc., etc. Donc je pense que il y a des méga tendances favorables à l'Afrique. Mais je suis aussi conscient du fait que nous sommes en train de partir d'une base assez modeste. Et cette base assez modeste est facile à vérifier dans les indicateurs sociaux. Et c'est les indicateurs que Julien est en train de mentionner. Donc, il faut dire que l'Afrique a réussi, malgré toutes les difficultés depuis 15 ans, à réduire le pourcentage de pauvres. Il faut dire aussi que l'Afrique a réduit de moitié la mortalité enfantine et maternelle. Et il y a beaucoup plus de filles qui vont à l'école, etc. Donc nous pouvons donner des nouvelles qui sont plutôt positives sur l'inclusion. Mais ces nouvelles ne sont pas suffisantes. Donc moi, je suis parmi ceux qui ont une certaine anxiété parce que ce n'est pas suffisant et la vitesse n'est pas à la bonne.
L'une des conséquences des graves difficultés de vie des populations africaines auxquelles vous faisiez allusion il y a quelques instants, eh bien, Carlos Lopez, vous le savez, c'est l'émigration. Les artistes africains en ont souvent fait un thème de leurs chansons, mais pas seulement eux. Écoutez cette chanson signée de David Crosby et Graham Nash, deux des membres du groupe Crosby, Stills, Nash & Young. C'est un texte qui s'appelle Immigration Man et ça remonte à l'année 1972. On écoute.
Immigration scene, shining and feeling clean. Could it be a sin? I got stopped by the immigration man. He said he doesn't know if he can. Let me in, let me in. Immigration man, can I cross the line and break? I can stay. His immigration face giving me a paper chase, but the sun was coming, 'cause all at once it looked into my space, stamped a number over my face, and it sent me running. Won't you let me in, immigration man? Can I cross the line and pray I can stay another day? My immigration form is big enough to keep me warm when a cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out for the man. Anywhere you're going, come on and let me in, immigration man. Can I cross the line and pray? Take your fingers from the train. Man, I won't tell you.
Crosby et Nash en 1972, Carlos Lopez qui chantait « Monsieur l'officier de l'immigration, laissez-moi entrer, immigration man, let me in ». Ça vous rappelle des choses ?
Tout à fait. D'abord, les faits, je pense, frappants et importants qui sont oubliés. L'Afrique contribue à peu près 14% pour l'immigration mondiale, l'Europe contribue 25%, l'Asie 31%, donc vraiment, on exagère. Deuxième constat...
On exagère en disant que c'est l'Afrique qui fournit les gros bataillons d'émigrés. Ouais.
Deuxième constat, le nombre net de migrants africains vers le monde est seulement de 2 500 000. Ce sont les statistiques des Nations Unies. Et ça, c'est quand on fait le décompte de ceux qui partent et ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont des migrants vers l'Afrique. Donc c'est vraiment un chiffre relativement modeste pour une population d'1 200 000 000. D'autant plus modeste que si on compare par exemple avec la Chine, on se rend compte que pour la Chine, c'est 10 millions. Donc c'est 5 fois plus que l'Afrique, presque. Alors, à quoi on doit cette peur qui semble s'installer auprès des populistes dans les pays européens, les États-Unis et maintenant Israël? Bon, c'est dû au fait que, d'abord, cette immigration africaine est en train d'augmenter rapidement. Donc même si les chiffres sont ceux que je viens de donner, qui sont très modestes, il y a eu quand même une augmentation de 67% depuis 4 ans. Et donc ça va continuer. Et je pense que c'est inévitable, parce que si vous avez une population qui va avoir 2 milliards dans le continent à l'horizon 2050, ne serait-ce qu'en maintenant le même pourcentage, on va avoir une augmentation relativement grande en termes absolus. Mais je pense que la deuxième raison, c'est le drame de la Méditerranée. C'est le fait que beaucoup de ces migrants viennent d'une façon qui est quand même assez...
dramatique.
Non seulement dramatique, qui est assez, centré sur le désespoir. Et donc, ça donne aussi l'impression à tous ceux qui discutent du point de vue des politiques, etc., l'impression que ces migrants sont le résultat de conflits, le résultat de pauvreté. Et c'est vrai que pour ceux qui traversent la Méditerranée, qui traversent déjà un désert avant d'arriver à la Méditerranée, c'est peut-être le cas. Mais il faut dire que c'est une petite minorité. Quand on regarde les chiffres, par rapport même au nombre de migrants africains qui partent vers l'extérieur, c'est un chiffre relativement petit. Et donc, même s'il y a du drame, et si on doit bien sûr être tous préoccupés avec la façon dont cette affaire est gérée des deux côtés, il ne faut pas perdre la notion de macro de la question.
Julien Clémenceau.
Du côté français, effectivement, l'afflux migratoire inquiète le gouvernement. Et une des réponses qu'ont mis en place les derniers gouvernements français, c'est de développer la notion de co-développement, justement. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de pertinent, et est-ce que c'est la notion de co-développement peut être favorable à l'Afrique?
Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans ces notions co-développement, partenariat, etc. Bon, les Allemands ont fait le compact G20, tout ça, c'est du baratin. En effet, depuis des décennies, on ne fait que recycler la même idée, qui est l'idée d'une relation où il y a donnant-donnant, mais au fond, c'est une relation où, contrairement à la perception de la plupart des Africains, et pour maintenir l'Afrique à l'écart des grands flux de l'économie mondiale. Ça ne permet pas le vrai développement industriel, ça ne permet pas la vraie croissance, etc. C'est un peu pour avoir sa tête un peu au-dessus de l'eau. C'est tout. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces, propositions qui ne sont pas vraiment très ambitieuses, au contraire de ce qu'elles donnent l'impression. À mon avis, ce qu'il faut, c'est de l'investissement dans les infrastructures, c'est de l'investissement dans le commerce, c'est de l'investissement comme font les Chinois. Donc vous voyez, dans une période de seulement 6 ans, les Chinois ont passé de 6e investisseur en Afrique pour premier, à la première place en termes de nouveaux investissements, et sont en train de chercher la première place en termes de stock d'investissement. Et ce n'est pas plus que 4% de la totalité de l'investissement chinois dans le monde.
Alors que la France, en proportion, investit beaucoup plus. On va écouter un dialogue justement à ce sujet-là qui a eu lieu il y a quelques jours à l'Assemblée nationale française. Chaque groupe parlementaire pouvait s'y exprimer au sujet de l'aide publique au développement. Écoutez ce dialogue entre la députée Les Républicains Véronique Louwagie et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne.
Le 8 février dernier, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a décidé une hausse des moyens consacrés à l'aide publique au développement. Vous venez de rappeler l'objectif de 0,55% du PIB en 2022. En 2016, la France consacrait 8,7 milliards d'euros du revenu national brut à l'aide publique au développement. Cela fait de la France le cinquième contributeur mondial. Le premier continent est l'Afrique, avec une aide qui lui est consacrée à 41%. Toutefois, comment un pays, comment une zone géographique peuvent-ils espérer prospérer lorsqu'ils sont contaminés de l'intérieur par des idéologies, par des revendications meurtrières ? Le combat face au terrorisme se joue à l'intérieur de notre pays, mais également à l'intérieur des pays et des zones desquelles émanent directement les acteurs du terrorisme. Alors l'aide publique au développement est nécessaire, indispensable. Toutefois, à l'heure où le gouvernement demande aux Français de faire de nombreuses restrictions budgétaires, est-ce que le gouvernement est prêt à lier, de manière directe ou indirecte, le versement de l'aide publique au développement aux seuls pays qui coopéreraient activement à la lutte contre le terrorisme ? Je vous remercie.
Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci beaucoup Monsieur le Président. Donc très clairement, l'Europe et l'Afrique ont destin lié. S'agissant du lien que vous faites entre aide publique au développement et engagement des États, je crois que vous le savez, ces États sont pleinement engagés. Et quand on regarde au niveau du Sahel, par exemple, les efforts consentis, y compris budgétaires, ce qui obère des marges de manœuvre pour ces États, pour d'autres politiques, eh bien, il y a véritablement une volonté très forte. Donc, je crois que nul besoin que de leur mettre la conditionnalité. Les dirigeants de ces pays prennent vraiment leurs responsabilités très à cœur de ce point de vue-là.
Véronique Louwagie et Jean-Baptiste Lemoyne à l'Assemblée nationale, propos recueillis par Pierre Firsion. Je vous vois sourire, c'est du baratin tout ça, pour reprendre le mot que vous avez employé tout à l'heure.
Je pense que vraiment lier l'aide au développement à la sécurité, c'est une erreur. Mais c'est une erreur qui n'est pas française, hein. C'est une erreur mondiale. De plus en plus de pays sont en train de le faire. Donc maintenant, on associe la lutte contre le terrorisme à l'aide au développement et aux migrations. Et je pense que c'est vraiment la preuve qu'on ne va pas aller très loin. Parce que si on voit les pays qui sont en train de vraiment étendre soit leur influence, soit leur présence économique en Afrique, et là je parle de ceux qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a aussi des investisseurs africains dans d'autres pays africains, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud et du Maroc. On se rend compte que c'est justement parce qu'ils ne font pas cette erreur. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas des pays du Golfe qui sont parmi ceux qui investissent le plus à ce moment dans le continent. Et à mon avis, il y a une autre erreur, c'est de penser qu'on peut soutirer de la part des gouvernements africains une espèce de loyauté à des politiques conçues de l'extérieur parce qu'on leur donne de l'aide. Et je pense que ce temps est passé. Tout le monde manipule tout le monde. Donc on est devenu vraiment une fabrique de manipulation et l'aide au développement est en train d'y contribuer. Ceci dit, je ne suis pas contre l'aide au développement. Je pense que l'aide au développement doit évoluer. Donc ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant n'a plus de sens.
Carlos Lopez, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. L'un des principaux liens entre la France et l'Afrique, en tout cas certains pays africains, c'est une monnaie, le franc CFA. Vous avez estimé vous-même par le passé que cette monnaie était désuète. Pourquoi, brièvement ?
J'ai pas dit que la monnaie était désuète, mais que le système qui la régit est désuet. Et la raison est très simple à expliquer. Donc on ne peut pas avoir une zone monétaire seulement pour aider un certain nombre d'entreprises qui ont besoin de transférer, disons, avec sécurité, leurs profits vers l'extérieur avec des taux de parité fixes. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle la monnaie existe, mais je constate que cette monnaie n'a pas été utilisée comme un instrument de politique monétaire.
Julien Clémenceau.
Est-ce que vous voyez les choses évoluer ? Est-ce que vous voyez les banques centrales africaines, les gouvernements se saisir de cette question et proposer une évolution du dispositif qui régit le franc CFA ?
Elles réagissent très lentement et donc la rue est en train de prendre ce débat en main. ce que je regrette, parce que c'est un débat extrêmement complexe et technique. Et donc, ce n'est pas un débat de rue. Mais il est en train de le devenir parce que, justement, il y a une espèce d'attitude de passivité. On ne peut pas avoir un système qui reste immuable pendant 30 ans et puis les gens ne réagissent pas.
Votre confrère Kakonubuko a payé cher ses prises de position sur le franc CFA. Il a été limogé de son poste de responsable de la francophonie économique. Est-ce que vous lui apportez votre soutien ?
Alors, au point de vue personnel, tout à fait. Je pense que c'est non seulement quelqu'un de brillant, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour lui. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec les positions que défend Kakbou, mais disons, sur le principe, je pense qu'il ne faut pas limoger quelqu'un parce qu'il a une opinion.
Alors, quelles sont les nuances de position que vous avez avec lui ?
Moi, je ne suis pas contre le CFA. Moi, je pense qu'une zone monétaire quelconque, qui a survécu et qui a la longévité que le franc CFA a, est certainement un atout. C'est un atout d'intégration, c'est un atout d'harmonisation, de convergence de politique macroéconomique. Mais la raison pour laquelle on a une zone monétaire, c'est surtout pour provoquer de l'intégration régionale. Donc c'est l'indicateur le plus important. Et le franc CFA n'a pas provoqué suffisamment d'intégration régionale. Donc je pense que à partir de ce constat, il faut commencer les réformes. Mais les réformes, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Est-ce que le franc CFA va être remplacé, selon vous, dès 2020 par une monnaie commune dans le cadre de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ? Est-ce que la CEDEAO va apporter justement cet outil d'intégration ?
Vous savez, la CEDEAO, c'est 67% l'économie nigériane. Donc si on ne fait pas attention, c'est les Nigériens qui bouffent le reste. Alors le problème avec le Nigeria, c'est que la façon dont le Nigeria gère sa politique monétaire n'est pas parmi les meilleures. Donc ajouter l'ensemble des pays de la zone CFA seulement au Nigeria, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, parce que les autres pays ne comptent pas beaucoup du point de vue de leur force économique. Et va exiger un certain nombre de négociations assez importantes et assez difficiles. Et je pense que ces négociations militent en faveur d'un franc CFA renforcé avant de créer cette zone monétaire intégrée.
Comment est-ce qu'on renforce le franc CFA alors ?
Alors, enfin, en faisant des réformes, d'abord. Je pense, par exemple, le taux de parité fixe est devenu une espèce d'idéologie. Très souvent, les pays, justement, font des fluctuations de leur taux de change pour de bonnes raisons, notamment pour protéger leurs industries, entre autres. Nous avons une difficulté énorme à imaginer que le franc CFA soit une monnaie qui permet la vraie convergence des politiques macroéconomiques. Vous avez, par exemple, au sein de la zone CFA d'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, l'Union monétaire d'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO, donc trois entités.
En Afrique de l'Ouest et puis à l'Afrique centrale.
Je parle d'abord d'Afrique de l'Ouest. Donc, dans ces trois entités, il y a des objectifs de convergence macroéconomique différents. Alors, un pays choisit lequel ça lui plaît. Et donc, ça, ce n'est pas des bonnes politiques.
C'est une aberration.
C'est l'aberration. Donc, il faut des réformes qui permettent vraiment une harmonisation de tout cela. Et ensuite, vous ajoutez un quatrième élément qui est la négociation d'une monnaie unique. Alors, les gens ne peuvent pas prendre au sérieux, disons, ce type de situation. Et dans l'Afrique centrale, il y a une valeur artificielle du franc CFA. Tous ces pays sont dans des positions déficitaires par rapport à leurs finances publiques. Et donc, la monnaie ne peut pas maintenir le même taux de parité que l'Afrique de l'Ouest, qui est en train de démontrer une grande croissance. Donc, encore une fois, c'est idéologique, hein, de maintenir la même parité.
Mais est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle la francophonie économique ? Est-ce que la francophonie économique a un sens ?
Elle devait avoir, hein, parce qu'il y a déjà plus de locuteurs de français qu'en Afrique qu'ailleurs. Mais je pense que très souvent, on fait des débats qui sont plutôt politiques qu'économiques. Hein. Si vous demandez vraiment dans la rue, comme on est en train de faire maintenant à travers les médias africains, ce que les gens pensent du franc CFA, la première chose que normalement est commentée, c'est le fait que la France est en train d'exploiter les réserves africaines. Et donc, 200 milliards de dollars à peu près de réserves sont exploités par la France. J'ai même vu dans la presse des chiffres absolument incroyables.
Ça, c'est ce qui est dit, mais est-ce que voilà. Ça n'est pas la réalité?
Non, mais j'allais commenter. Et je pense que c'est vraiment ne pas connaître l'économie globale, parce que 200 milliards pour la France, c'est rien du tout d'abord. Hein? Pour la Banque de France, qui est partie de la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment des cacahuètes. Donc ce n'est pas vraiment l'intérêt de la France d'exploiter les gens à travers des réserves. Probablement, on peut obtenir beaucoup plus d'intérêt si c'était mieux utilisé. Mais c'est utilisé de la façon dont elle est utilisée, parce que la Banque de France suit les règles de la Banque Centrale Européenne. Donc si on avait un peu plus de liberté et on mettait l'argent dans d'autres véhicules financiers, on aurait des résultats plus intéressants, mais pas beaucoup plus intéressants. Le vrai débat, c'est le fait que la France ne s'intéresse pas suffisamment, pas qu'elle exploite. C'est que c'est tellement marginal par rapport à ses intérêts qu'elle maintient le status quo plutôt que de faire des réformes.
Dans ces conditions, comment vous voyez la volonté d'adhésion du Maroc à la CEDEAO? Est-ce que ça viendrait compenser un petit peu le poids du Nigeria? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'équilibre de cette zone et pour la faire avancer et en faire cet outil d'intégration que l'Afrique de l'Ouest attend?
Well, d'abord, pour que le Maroc puisse adhérer à la CEDEAO, à mon avis, il faut que le Maroc accepte la libre circulation de personnes qui existe dans la CEDEAO. Est-ce que le Maroc est prêt à accepter cela? Le deuxième aspect, c'est que le Maroc doit perdre beaucoup d'éléments de son identité nationale, comme par exemple le fait que même le passeport de la CEDEAO est un passeport commun. Et donc, je ne vois pas vraiment le Maroc s'intéresser pour ces aspects d'intégration profonde qui existent déjà au sein de la CEDEAO, mais plutôt de voir la CEDEAO comme, disons, un champ politique et commercial pour le Royaume. Donc, il va falloir entrer en matière avec beaucoup plus de soins et avec beaucoup plus de technicité.
Carlos Lopez, on approche de la fin de cette émission. Je voudrais revenir vers un rapport que vous avez dirigé en quelque sorte en 2015 lorsque vous étiez à la tête de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. La Commission avait publié un rapport sur l'évasion fiscale et la fraude, évaluant les pertes pour le continent à 50 milliards de dollars par an. Est-ce que les gouvernements africains, à votre connaissance, se sont saisis de ce dossier et ont réagi?
Oui, mais pas autant que nécessaire. Il y a un certain nombre de pays qui ont vraiment pris des mesures importantes, comme c'est le cas d'un pays qui est absolument crucial dans l'affaire, l'île Maurice. Vous savez que l'île Maurice, par exemple, est le plus grand investisseur en Inde, et plus que les États-Unis, le Japon, la Chine, parce que on utilise l'île Maurice un peu comme porte d'entrée pour les investissements en Inde. Ce qu'on sait moins, c'est que justement l'île Maurice est utilisée aussi pour pas mal de, disons,
c'est une porte de sortie.
Activités moins illicites concernant l'Afrique. On a vu que la présidente de Maurice vient de démissionner justement parce qu'elle avait reçu des faveurs d'une ONG auquel est liée un personnage qui en Angola est très connu pour avoir été, disons, à la source de beaucoup de flux illicites. Donc voilà un peu ce que l'histoire vous raconte, quoi.
Merci Carlos Lopez, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI de Jeune Afrique. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter sur RFI.fr ou via l'application Pure Radio ou encore sur le site de Jeune Afrique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.